Michael the Goose Production proudly presents The Marshall Bruce Experiment, the unsafe and hazardous journey of a reader through La Recherche du Temps Perdu.
Pendant l'année, tout le monde est pressé et j'ai en général 2 minutes à 3 minutes 30 pour faire la chronique d'un livre et j'essaye de dire des choses intelligentes. Tout ce qui pouvait être dit d'intelligent sur Proust a déjà été écrit. C'est pourquoi la démarche que je vous propose est strictement inverse. Rien d'écrit, rien de préparé. Un volume de Proust dans les mains, un enregistreur devant moi et la volonté de vous faire... vous, c'est qui vous? C'est tout nul. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Bon, ça commence un peu dur. Hein. Je crois qu'il faut commencer, en fait, par expliquer comment je n'ai pas lu Marcel Proust. Je suis un lecteur compulsif. Enfin, j'ai toujours été un lecteur compulsif. Bon, je vais me servir du thé. J'ai commencé à lire La Recherche du Temps Perdu à peu près à l'âge auquel Proust a commencé à l'écrire, à peu de choses près, autour de 35 ans. Et de la même façon, en fait, tout ce que Proust a écrit avant de commencer La Recherche du Temps Perdu prépare La Recherche du Temps Perdu, et parfois il me semble que tout ce que j'ai lu avant La Recherche du Temps Perdu prépare la lecture de La Recherche du Temps Perdu. J'ai lu tout Balzac, sans bien comprendre, quand j'avais 13-14 ans. Après, j'ai enchaîné avec Dostoïevski. Non, après, j'ai lu Camus. Ensuite, j'ai lu Dostoïevski, où la profondeur psychologique des personnages m'a un peu bousillé le cerveau. Mais encore une fois, avec un côté un peu difficile, laborieux de la lecture. Ouais. Bon, j'ai pas attaqué Marcel Proust. Je m'y mettais pas. J'ai mis longtemps à comprendre, d'ailleurs, le malentendu qu'il y avait autour de Proust. Le hiatus qu'il y a dans la relation entre Proust et sa mère me fait penser au malentendu qu'il y a eu entre ma mère et moi sur la lecture de La Recherche du Temps Perdu. Pendant longtemps, j'ai l'impression que ma mère dénigrait Proust. Et elle me dit aujourd'hui que c'est pas qu'elle dénigrait Proust, c'est qu'elle pensait, au vu de ce que je lisais, que ça m'intéresserait pas. Je comprends aujourd'hui que adolescent, j'étais adolescent, donc très révolté, tout ce côté bourgeoisie d'où je venais me pesait. Je savais pas comment me positionner. Je pensais que la réprobation de ma mère, que ma mère avait pour Proust, c'était plutôt sur le côté très lent, très maniéré, et pour tout dire sur l'homosexualité. Ma mère est d'une génération pour qui l'homosexualité met en danger un certain modèle. De la même façon que une jeune épouse passe de la domination de son père à la domination de son futur mari avec tous les rites de passage qu'il y a à l'église. C'est l'amour d'une femme qui m'a fait passer de la réprobation de la recherche du temps perdu, réel ou ressenti, hein, il ne s'agit pas pour moi de faire le procès de ma mère, à une curiosité pour ce monument que je n'avais pas plus envie que ça d'attaquer. Et elle m'avait passé le volume de la Pléiade en me disant « Écoute, voilà, le jour où tu auras envie d'essayer... T'auras qu'à lire quelques lignes, quoi. » Et je l'ai fait par politesse, par volonté de lui montrer « Regarde, je vais lire ce que tu me dis de lire, et puis quand j'aurai lu 3-4 pages, et que je t'aurai dit « Ah ouais, c'est intéressant, dis donc, quel style, fantastique. » Je le reposerai, et puis tu me reparleras pas, et puis moi je te reparlerai pas, et puis... Et alors j'essaye de me souvenir... Le pire de tout, c'est que je crois que je n'ai jamais ouvert son exemplaire de la Pléiade parce que j'avais la trouille de l'abîmer. Moi, j'ai toujours été un enfant un peu maladroit, un peu brise-fer. On m'a toujours dit ah, « fais attention à ça, t'abîmes tout, t'abîmes mes livres. » Et donc, j'ai attendu d'acheter le premier tome de La Recherche du Temps Perdu en maxi poche, qui est probablement l'édition la plus pourrie qu'on puisse trouver dans une étagère à Emmaüs Brest. Et puis, j'ai... Alors, le regret que j'ai aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, je respectais quand même les livres de poche suffisamment pour ne pas prendre de notes. Donc j'ai des notes quelque part dans des carnets, mais rien sur le livre lui-même. En tout cas, pas sur les premiers volumes. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert cette édition un peu pourrie en rentrant chez moi, là, dans ma maison toute pourrie à Brest, où on entendait le bruit des camions tout le temps. Et je me suis retrouvé... Je me suis retrouvé dans Proust avec cette ambiguïté, c'est-à-dire le côté narcissique de... j'ai retrouvé dans les réflexions de Proust ce que j'ai pu ressentir en 10 fois mieux exprimé, enfin 1000 fois mieux exprimé, mais aussi je me suis retrouvé dans Proust, c'est-à-dire j'avais l'impression de revenir vers une partie de moi contre laquelle j'avais fait que lutter toute ma vie. Le côté sursensibilité, afflux de sensations qui monopolise le cerveau, difficulté de... Et surtout, ce que Proust arrivait à faire, c'est que ça donnait un moi augmenté parce que je ne me suis jamais fié à mes yeux pour explorer l'environnement. Et le miracle qu'il y avait avec Proust, c'est que l'ensemble de mes sens était, j'allais dire sollicité, pas sollicité, puisque on ne fait que lire, mais sollicité de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en lisant les premières pages de La Recherche, je me suis... alors voilà, il faut savoir, quand on lit La Recherche du Temps Perdu, pour se la péter, pour faire le gros snob, on dit La Recherche.
Quelle autre recherche, bien sûr, La Recherche du Temps Perdu, cette somme romanesque qui marque le passage du 19e au 20e siècle. C'est-à-dire, bien sûr, Proust commence la Recherche du Temps Perdu en 1907, donc on est déjà dans le 20e siècle, mais en réalité, Proust est le dernier écrivain du 19e siècle, un 19e siècle d'une classe qui se meurt, d'une bourgeoisie qui monte et d'une aristocratie qui devient enfin soluble dans la société.
Je peux pas du tout poser mon... Bouge pas, t'es un enregistreur, à la fois tu bouges si je te pousse. Hop. Je vais essayer de lire la première page pour... Parce que de toute façon, c'est pas un spoiler, c'est la première page. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « Je m'endors ». Et, une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage, une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue, et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivaient l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Alors, ça, c'est juste la première page. Et... j'aurais dû fermer ma gueule et continuer, mais... ça durera des heures après ce podcast. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller, qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit. C'est l'instant où le malade, qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur, c'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés, il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent puis s'éloignent, et la raie de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit. On vient d'éteindre le gaz, le dernier domestique est parti, et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède. Et là, on a tout le paradoxe. Dans une page et demie, on a tout le paradoxe de Proust. C'est-à-dire, je sens, moi, l'oreiller qui est sur la joue et le fait qu'il soit frais. Alors après, dès les premières... Bon, déjà... Voilà, alors... Difficile de faire des liens quand on n'a rien écrit. Mais... Le paradoxe de Proust, il est dans ses premières pages. C'est-à-dire que dès les premières pages, on a le style, les sensations, la capacité à faire naître des images, mais des images au sens plein du terme. C'est-à-dire à faire toute la recherche du temps perdu consiste à faire naître dans le lecteur des souvenirs d'une vie qu'il n'a pas vécue. Donc on a tout ce côté-là fantastique. On sent dans le lien entre les sensations et les sentiments du lecteur qu'on va avoir l'anti-Dostoïevski. C'est-à-dire que Dostoïevski explique tout par de la psychologie et de la morale, et Proust explique tout le comportement des gens avec zéro morale, zéro psychologie, mais juste par les ressentis, les sensations et la façon dont elles interagissent avec les actions qu'on peut avoir. Les sensations qu'il arrive à faire naître sont tellement proches de celles de nos souvenirs qu'on s'identifie au lecteur, au narrateur. Or, le narrateur, c'est un mec qui nous explique qu'il y a des domestiques qui viennent éteindre le gaz à l'endroit où il se trouve. Moi, j'ai pas de domestique, en fait. Moi, voilà. Et pour autant... Le paradoxe, c'est qu'en fait, on va jamais décrocher sur les 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça doit être 7, découpé en 7 volumes de manière traditionnelle, quoi. Voilà pour aujourd'hui quelques idées pour briller en société, comme des gens vous parlent de la recherche. Tu as lu La Recherche ?
This episode of the Marcel Proust Experiment was brought to you by
insert name of a financial sponsor.